La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'original. Dutrisac. Votre plaisir coupable.
Allô, bonjour. Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Allô? Stéphanie, bonjour.
Allô?
On est le 2 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Madame Villeneuve, bonjour aussi. Bonjour. Écoute, moi, j'habite sur la rive sud. Pris le pont Champlain. Puis, vers 10 heures ce matin. Et dans l'autre sens, direction sud, là, il y avait un bouchon, là. Puis, on a vérifié. Puis, Jean-François, on a une carte du ministère des Transports.
Oh, c'est rouge foncé.
Que j'emmerde avec beaucoup d'affection. Regardez ça, là. C'est bouché jusqu'à... C'était bouché jusqu'à l'échangeur Turcot. Et là, t'as des caméras de surveillance, puis ils montent pas. Des camionneurs coincés dans un bouchon, là, interminable. Moi, j'étais dans l'autre sens. Pourquoi? Pour des réparations d'urgence majeures, ils changeaient des lumières, hostie. Ils changeaient des lumières sur les panneaux avec les flèches là, au-dessus du pont. Il y avait 3 camions de cabochons pour changer de lumière. Donnez-moi des raisons pour chialer. Arrêtez. Donnez-moi une chance. Je vais en péter une en ondes si ça continue. Travaillez comme du monde, bande de
À 10 heures le matin.
Pas tard. Mais là, t'as les camionneurs qui ont de la marchandise, qui ont à livrer. Ils sont pas là pour s'amuser. Puis la gang de tata qui change une lumière à 10 heures le matin, faites ça à 3 heures le matin, à 4 heures. Levez-vous, Asti, puis allez travailler la nuit au lieu d'écœurer tout le monde puis de créer des bouchons de même. Madame Guilbeault, Chris, c'est ce dont on est écœuré. J'imaginais les camionneurs là, être là, pognés dans un bouchon inutile. Tu sais, s'il y a un accident, on comprend. S'il y a un événement, on comprend. Si la chaussée s'effondre, on comprend. Mais pour changer des lumières... C'est qui, la stie de sans dessin, qui
c'est dit... C'est une bonne idée.
OK, les gars, aujourd'hui, vous allez changer des lumières sur le pont Champlain à 10 heures. OK, ouais, mais boss, il va y avoir un manquant à liste du monde, là, des camionneurs. Ah ouais, allez, là. Hey, dehors, stie. Dehors, congédiez-moi ça, ces imbéciles-là qui... J'en viens pas. Bref, tout va bien. On est le mois de mai, hein? Non, mais... C'est juste moi, là, où tu dis, vous faites-vous exprès pour nous faire chier.
D'accord.
Écoute, puis les camionneurs, là, sont déjà pognés de même, là. Ils doivent livrer, puis ils sont déjà pris dans des bouchons, puis les sans-dessin changent les lumières à 10 heures le matin. Ouf! Là, Tassé est avec nous pour changer de sujet. Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour, Benoît. Mais tu comprends pas, ces gens-là ont des MBA, ont des diplômes, mais ils savent ce qu'ils font. Ils savent très, très bien ce qu'ils font.
C'est des crétins. C'est soit des crétins, ou soit ils s'amusent à provoquer des bouchons inutiles. Mais un comme dans l'autre...
Ou
là,
alors ils se disent, hey, ça coûte trop cher, changer ça la nuit, donc on va économiser de l'argent.
Il y avait 3 camions. Il y avait
en faisant perdre à tout le monde, mais bon.
3 camions. Ça prend combien de camions pour changer une lumière? En tout cas, laisse faire. Parle-nous des campements. Ça dérape, là, les campements. Là.
Ben, ça dérape dans le sens où la police est entrée dans les campements. La police était entrée dans les immeubles pour déloger les manifestants, mais elle n'était pas entrée dans les campements aux États-Unis. Et hormis Brown's et quelques autres universités où il y a eu un accord entre les universités et les manifestants, il n'y a pas eu d'accord à Los Angeles, il n'y a pas eu d'accord à Columbia, et donc la police est rentrée sur les campements même. Il y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations. Et on parle de près de 300 arrestations. Qu'est-ce qu'on découvre? Oh! La moitié des gens qui étaient arrêtés, à peu près, avaient aucune affiliation avec les universités où ils étaient.
Tiens donc.
Tiens donc. Alors on me dit, mais est-ce que c'est des étudiants ailleurs, dans d'autres grandes universités? Ah, quelques-uns, oui, mais d'autres, non, pas du tout. C'est des gens de l'extérieur
des comme ça, de
qui
sont
arrivés là. C'est curieux, hein?
Ouais, oui.
Ouais.
Ouais. Exactement. Financé par qui, ces gens-là, Loïc? Parce qu'un mouvement là, coordonné de même, là, il y a de l'argent qui rentre quelque part, d'une façon ou d'une autre.
Oui, puis ça fait... Ben, écoute, cherche à qui en profite. Cherche à qui ça profite, puis ben tu vas trouver, possiblement, qui peut avoir intérêt à manipuler les étudiants. Et je ne dis pas qu'ils ont été manipulés, mais ça va toujours dans ce sens-là. Tu sais, qu'est-ce que ces gens de l'extérieur, qui n'étaient pas des étudiants, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ça prend pas beaucoup de monde hein, pour que tu bouges une foule. Ça te prend deux ou trois bons leaders, puis ça y est. Tu peux faire bouger les gens dans un sens.
J'ai vu passer hier là, 4 milliards de financement aux universités américaines par le Qatar. Là, je suis allé voir McGill. J'ai trouvé, j'ai trouvé en 2012, McGill a reçu 1,2 million du Qatar pour des études islamiques. On constate, là, c'est l'islamisation du mouvement, là. Et là, il y a des gens qui disent, là, vous applaudissez mais les bourreaux. Puis moi, je suis d'accord, Netanyahou, il faut qu'il se calme, là. Il faut qu'il arrête, là. Il faut qu'on négocie, qu'on libère les otages, qu'il arrête de bombarder la Palestine. Je suis d'accord avec ça, là. Mais d'en faire des héros, mais c'est
il y avait, il y a je ne sais pas combien c'est maintenant, mais il y a quelques années, McGill formait un nombre considérable d'étudiants en médecine qui venaient d'Arabie Saoudite.
Ouais.
Fais-moi pas croire que ces gens-là vont rester ici puis vont pratiquer la médecine ici alors qu'on manque de médecins. Mais évidemment, si l'Arabie Saoudite donne de l'argent à McGill, ben peut-être que ça incite McGill à ouvrir. Ce sont sûrement de très bons étudiants, là, les gens qui viennent d'Arabie Saoudite.
Sûrement.
Mais charité bien ordonnée commence par soi-même.
Ouais,
tu sais, on manque de médecins au Québec. Veux-tu m'expliquer pourquoi au premier cycle, on reçoit toujours des étudiants étrangers qui sont formés en médecine? Je ne la comprends pas, celle-là.
Ils vont s'en
aller. Et entre autres, des gens qui viennent de ces pays-là.
Bon, notre ami Donald Trump. Il n'y a pas de nouvelle internationale sans Donald Trump. Vraiment, ça ne vaut pas la peine.
Mais
tu fais hausser nos codes d'écoute, Loïc. C'est bon.
C'est pas volontaire, mais c'est comme ça. Trump, ben, écoute, j'ai quand même regardé son procès. Hein.
Ouais.
Mais même lui, il s'endort à son procès.
Ouais,
il ferme les yeux. Puis tu dis, bon, OK, on a l'impression qu'il roupille. Bon, il y a l'avocat de Stormy Daniels qui est là, qui est à la barre. C'est pas passionnant. Ben, moi, je vais te dire là-dessus, c'est pas passionnant. Mais Trump, par contre, lui, il a fait une entrevue, il a donné une entrevue extraordinaire au Time. Et dans le Time, il a déclaré toutes sortes de choses plus invraisemblables les unes que les autres. Mais entre autres choses, il a dit, ouais, moi, je veux expulser entre 15 et 20 millions de sans-papiers des États-Unis. On avait fait ça au début des années 50. On en avait expulsé 1 million, l'autre côté de la frontière mexicaine. Moi, je veux faire ça. Je veux faire des camps aussi, qui vont être gardés par l'armée, où on va les stationner en attendant qu'ils soient expulsés, etc. Là, t'écoutes ça, puis d'abord, c'est pas 15 à 20 millions de sans-papiers qu'il y a aux États-Unis. D'après le Pew Institute, c'est plus autour de 10 millions de sans-papiers qu'il y a aux États-Unis, mais quand même, 22% des gens qui sont nés à l'extérieur des États-Unis sont des sans-papiers. C'est beaucoup. Alors, il dit, on va faire ça. Moi, c'est pas... Bon, on peut critiquer cette politique-là, puis si tu veux, moi, pour avoir voyagé dans plusieurs villes américaines, puis avoir vu les sans-abri dans les villes américaines, puis avoir vu qu'une grande partie, surtout dans le Sud, sont des sans-papiers, etc., puis avec toutes les conséquences que ça a, je pense que les États-Unis doivent commencer à prendre des mesures qui sont plus strictes, puis Trump n'a pas tout à fait tort là-dessus. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais aux États-Unis, Trump arrive au pouvoir et qu'il applique cette politique qu'il avait annoncée, remarque, en 2016, il ne l'a pas appliquée. Mais cette fois-ci, qu'il se donne les moyens de l'appliquer. Où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là? Est-ce que ça se pourrait qu'ils continuent vers le nord? Oh! Est-ce que ça se pourrait que nos réfugiés, le nombre de nos réfugiés double, triple, quadruple? Où est-ce qu'on va les mettre? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Comment est-ce qu'on va s'organiser?
Ouais.
Ouh, Justin!
Justin va envoyer
est-ce
un message.
Est-ce que tu nous entends?
Est-ce que Justin va envoyer un autre message? Comme en quoi, en 2015?
Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. Mm-hmm. Et ainsi de suite.
Ben, faut être généreux.
Avec notre argent. Ah oui, avec notre argent.
Ouais, et pas chez lui.
On trouve que nos taxes...
Et pas chez lui.
C'est pas son argent.
Non, non.
C'est notre argent.
Non, c'est ça.
Puis là, tu te dis, mais écoute, là, c'est parce que on a des problèmes de logement. Nos hôpitaux débordent. Nos écoles débordent parce qu'il faut recevoir tous ces gens-là.
Ouais.
Puis là, tu dis, attends, là, c'est parce que... Il y a Trump dans le Sud qui va avoir une politique beaucoup plus stricte. Je répète ma question. Où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là? Et il est fort probable qu'une partie de ces gens, même si Trump dit « Ah, je vais appliquer la règle », même s'il ne l'applique pas, s'il fait juste dire « Je vais le faire, c'est en train de venir
»,
qui décide d'aller vers le Nord. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on va faire?
On va ouvrir les bras.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu vas avoir de la misère dans les rues, tu vas avoir de plus en plus d'itinérants, tu vas avoir les gens qui ont le plus de difficultés, qui vont se faire chasser de leur logement.
Donc, tu vas avoir de la criminalité qui va augmenter, parce que les gens vont devoir se nourrir.
La criminalité va augmenter.
Ah oui, c'est pas une bonne nouvelle.
Les problèmes de drogue vont augmenter. Tout ça, l'atmosphère dans les villes va se détériorer, il va y avoir moins de touristes, puis des magasins vont fermer. Tout ça se suit, là, c'est un effet domino, tu le vois, c'est clair. C'est pas que je veuille leur jeter la pierre à ces gens-là, mais c'est juste, regardez, là, si jamais on reçoit encore plus de réfugiés que ce qu'on reçoit maintenant, c'est ça qui va se produire. Parce que c'est une chose de choisir des immigrants selon les besoins du marché. Et c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Puis on avait besoin de charpentiers, on faisait venir des charpentiers. Des électriciens dans tel domaine, on les faisait venir. C'est très bien. Mais là, c'est des gens qui arrivent sans qualification. C'est des gens dont on n'a pas nécessairement besoin dans notre économie. On les reçoit par pure générosité. Oui, mais est-ce qu'ils vont contribuer à notre économie?
Ah oui. On ne peut pas faire d'angélisme, puis on ne peut pas être Mère Teresa. Il faut être pragmatique.
Non.
Il faut pouvoir aider ceux qu'on peut aider, puis accueillir ceux qu'on peut accueillir.
Puis c'est sûr qu'il y a des réfugiés qui sont des gens fantastiques. C'est sûr qu'il y en a qui ont des compétences. Puis c'est sûr qu'il y en a qui peuvent aider.
Ben, qui devient,
dans
qui,
la masse, là,
mais qui passe,
je pense pas.
Mais qui passe par le système d'immigration?
À l'immigration,
c'est
au lieu de passer, de couper la ligne puis d'aller devant tout
c'est
le
ça.
Monde. En tout cas, on a ce problème.
Un mot sur le Justin Trudeau français.
Alors, Emmanuel Macron, lui aussi, était dans un magazine américain. Il était dans The Economist. Il fait la première page The Economist avec la nouvelle dont je te parlais, c'est-à-dire qu'il disait « L'Europe peut mourir ». Et ça peut mourir brusquement. Mais il en a remis sur ce qu'il disait. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que je t'en parle. Il a dit « Oui, je vais envoyer des troupes en Ukraine s'il faut. » Il y a deux conditions. Ah, ça, c'est nouveau. Quelles sont ces conditions? Ben, d'abord que le gouvernement ukrainien me le demande. Bon, ça va de soi. Mais aussi, dit-il, et ça, c'est beaucoup plus dangereux, si la Russie perce le front ukrainien, à ce moment-là, on pourrait avoir à envoyer des troupes en Ukraine, des troupes françaises en Ukraine, et donc d'autres pays pourraient le faire aussi. Alors, ça, c'est extrêmement... je ne dis pas qu'il y a raison, je ne dis pas qu'il y a tort, je vais juste dire, la situation s'est beaucoup envenimée. Quand il dit ça, ça veut dire qu'on s'en va vers une confrontation beaucoup plus grave.
Ouais.
J'espère que ça n'arrivera pas et que le front russe ne percera pas le front, mais il vient d'établir une ligne rouge à ne pas traverser pour la Russie. Et ça, c'est très dangereux pour l'équilibre de l'Europe.
Ouais, je sais pas si tu as lu aujourd'hui, là, c'est pas un piège, là. Moi, j'ai trébuché sur le Figaro qui parlait de l'Union européenne qui se prépare à aller au combat, là, qui se prépare à une guerre. Là, tu disais, vraiment, ils changent les lumières à 10h le matin sur le pont Champlain. L'Union européenne veut se préparer une guerre. Moi, je pense que je m'en vais.
Avec
Benoît, le survivaliste. Là. Je m'en vais en forêt là, puis manger des bébites. Là.
La guerre, c'est comme une indigestion. Tu veux pas l'avoir. Tu veux pas aller là. Tu veux vraiment pas aller là.
Ouais.
C'est la pire des solutions. Des fois, par contre, c'est là qu'on se retrouve.
Ouais.
Je ne le souhaite pas. J'espère qu'on va tout faire pour éviter ça.
Non, on ne veut pas envoyer nos enfants.
Mais en effet, Benoît, si tu veux, le haut le cœur monte. Là. Puis oui, on a nos enfants, puis nos petits-enfants dans certains cas. Puis tu sais, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, là, tu les regardes. C'est pas toi et moi qui allons aller combattre. Je regarde les gens plus jeunes. Puis je me dis, non, je ne veux pas ça. Tu sais, j'ai des classes d'étudiants, là, je les regarde. Je dis, merde, je veux pas qu'ils aillent au combat, ces gens-là.
C'est ça.
Pas pour ça. Mais s'il faut, va falloir. Mais je pense qu'il faut vraiment tout faire pour éviter ça d'abord.
OK, et on se laisse sur Haïti, Loïc.
Ben, ils ont un nouveau président en Haïti qui a été nommé parmi le conseil des sept. Oui, il s'appelle Edgar Leblanc fils. Edgar Leblanc, pour faire plus court, c'est lui qui va devenir le président par intérim. Il y a un conseil par intérim de sept personnes qui a été nommé, je te signale. C'est un ancien président du Sénat entre 1996 et 2000. C'est quelqu'un qui a été aussi candidat à la présidence, il a terminé deuxième. C'est un ingénieur, figure-toi. Et sa spécialisation, c'est quoi? C'est la gestion des ports. Des ports P-O-R-T, des ports de mer. Là, tu dis, attends, le port de Port-au-Prince, c'est un des endroits les plus corrompus à Port-au-Prince. Est-ce que ce type-là était là-dedans? Puis, en fait, toute l'opposition en Haïti commence à dire, oui, mais c'est parce que les gens qui sont là, le Conseil des Sept, là, ben, d'abord, il n'a pas été nommé à l'unanimité, loin de là. Puis c'est des bandits. C'est des gens qui ont trempé dans tout ça, dans tous ces trafics de corruption.
Donc, et, la tradition continue.
Ben, Fritz Bezer, premier ministre de transition, c'est l'ancien cadre des travaux publics et des transports. L'ancien ministre des Sports aussi.
Ouais, ouais.
Écoute.
Bon, ça ne s'arrangera pas. Hein?
Tu viens de réinstaller, tu es en train de réinstaller un certain nombre de personnes qui étaient corrompues et incompétentes.
Mmh. Oh. Bon, ça c'est Haïti pour vous, mesdames et messieurs. Merci Loïc, à demain.
Salut, à demain.